Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Les élections en Afrique, tout d'abord, au Mozambique, la population vote ce mardi aux élections présidentielles et législatives, un scrutin sur haute tension qui pourrait contraindre le Frelimo, le parti aux commandes depuis l'indépendance en 1975, à céder pour la première fois une partie de son pouvoir dans un pays affaibli par une crise économique et les conflits armés. Après 6 semaines d'une campagne mêlée de multiples violences, le vote se déroule dans le calme, sans incident majeur relevé à la mi-journée. Sauf énorme surprise, le chef de l'État sortant, Philippe Nyusi, devrait l'emporter sur son rival Ossoufou Momade, porte-étendard du Renamo d'opposition à la présidentielle. Même scénario législatif selon les analystes politiques. Élection Guinée-Bissau maintenant, la Cour suprême bissau-guinéenne a validé hier les dossiers de 12 candidats à la présidentielle prévus le 24 novembre. Un feu vert donné notamment au président sortant José Mario Vaz et aux représentants des principales forces politiques du pays. Le point avec Idriss Fall.
José Mario Vaz, 62 ans, se présente en indépendant faute d'avoir obtenu l'investiture d'un parti. Il affrontera son ancien premier ministre Domingo Simões Pereira, chef du PAIGC qu'il avait limogé en août 2015 et a refusé de le nommer à nouveau à la tête du gouvernement après les législatives de mars. Un autre ancien premier ministre, Carlos Gomes Junior, se présente en indépendant. Il a été renversé en 2012 par un coup d'État avant le second tour d'une présidentielle dont il était donné largement vainqueur. Oumaru Sissoko Embalo, un autre ancien premier ministre, sera le porte-drapeau des frondeurs du PAIGC. Ils étaient 19 prétendants et 7 candidatures ont été recalées, dont celle de l'unique femme, la sociologue Nancy Schwartz. Ces recalés ont 48 heures pour déposer leur recours. Une délégation de la CEDEAO a insisté le 7 octobre à Bissau pour que le premier tour de la présidentielle se déroule le 24 novembre avec un éventuel second tour le 29 décembre.
La situation en Guinée-Conakry maintenant, les manifestations contre un possible troisième mandat pour le président Alpha Condé ont paralysé la capitale Conakry lundi. Et selon l'AFP, au moins 4 jeunes manifestants ont été tués. Pour sa part, le gouvernement fait état d'un gendarme abattu par balle dans la ville de Mamou, à l'est de Conakry, et d'un habitant tué dans la capitale dans des circonstances qui, et je cite, « restent à élucider ». Les heurts entre manifestants et policiers hier ont eu lieu dans plusieurs quartiers de Conakry. Un rappel des événements dans la capitale, lundi avec notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
L'autoroute Fidel Castro, presque déserte. Seulement quelques motos étaient visibles le matin. Station-service, banque et plusieurs boutiques n'ont pas ouvert. Aboubakar est l'un des premiers Guinéens à répondre à l'appel du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution.
Il travaille, il n'est pas travaillé. Nous, on ne demande pas le troisième mandat. On attend la mobilisation.
Plusieurs heures après, aucun mouvement, aucun regroupement sur l'autoroute. De l'autre côté de la ville, une fumée noire flotte au-dessus de Kosa, un quartier de la banlieue. Des jeunes, visiblement en colère, ont barricadé la route et brûlé des pneus sur la chaussée. Plus loin, vers la haute banlieue, Wanindara, sur l'axe Le Prince, était en ébullition des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Fatoumata Binta Diallo, députée UFDG, principal parti d'opposition.
Il a juré par deux fois de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Il sait qu'il refuse d'installer la haute cour de la justice pour ne pas qu'on l'arrête parce qu'il sait que c'est la haute cour de la justice qui doit l'interroger.
Des manifestations une semaine seulement après la rentrée scolaire. Pour ces Guinéens rencontrés sur l'autoroute Fidel Castro, le FNDC avait une autre option.
Ils n'ont qu'à arrêter les grèves pendant les moments de cours et laisser les enfants étudier parce que tous ceux qui font de la grève ici, leurs enfants sont à l'extérieur.
Si les politiciens savaient au moins combien de fois nos parents, nos mamans souffrent à la maison pour avoir un peu d'argent pour aller payer les frais de nos soeurs et puis nos frères, ils n'allaient pas demander à sortir dans la rue. Ce n'est pas ici qui va résoudre nos problèmes. Ils n'ont qu'à aller à la table. négocier.
Samedi, le coordinateur national du Front national pour la défense de la Constitution et plusieurs autres membres du mouvement ont été interpellés. Des arrestations qui n'ont pas empêché Mori Kourouma de protester, mais pacifiquement.
Le pays n'a pas besoin de ça, on a besoin de l'alternance. Quand on dit démocratie, on doit accepter la démocratie avec ses principes. Et aujourd'hui, on voit que le président veut un peu venir ici, passer un peu quelques règles de la démocratie, parce qu'il ne veut pas respecter l'alternance.
Plusieurs chefs des partis d'opposition, confinés à leur domicile, ont fait le bilan de cette journée de manifestation. L'ancien premier ministre Sidya Touré parle de succès. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
VOA Afrique en direct de Washington.
Toujours concernant les élections en Afrique, en Tunisie, Kais Saied, proclamé lundi vainqueur de la présidentielle, peut être qualifié de novice en politique. C'est un spécialiste du droit qui prône une révolution dans le strict respect des lois. Et qui, à Badou, vous brosse son portrait.
Né le 22 février 1958 à Benikiar, sur la côte est, Kais Saied a grandi à Rhadès, dans la banlieue sud de Tunis. Diplômé en droit constitutionnel à 28 ans, il sera enseignant assistant à Sousse, puis à la faculté des sciences juridiques de Tunis, jusqu'à sa retraite l'année dernière. Père de deux filles et un garçon, il est marié à une juge qui n'est apparue à ses côtés qu'au dernier jour de la campagne. Surnommé Robocop en raison de sa diction saccadée et de son visage impassible, ce néophyte en politique a percé dans les sondages avec le ras-le-bol vis-à-vis de la classe politique traditionnelle. D'ailleurs, 90% des jeunes âgés de moins de 25 ans ont voté Kais Saied, considéré comme monsieur propre. Son QG est un appartement décrépit, meublé de chaises en plastique, dans le centre-ville. Son allure assurée et son éloquence savante l'avaient placé en bonne posture lors du face-à-face télévisé vendredi avec son rival Nabil Karoui.
En République démocratique du Congo, l'épave de l'Antonov 72 disparu jeudi dernier alors qu'il assurait la logistique du président Félix Tshisekedi a été retrouvée dans la province de Sankuru au centre du pays. Un responsable des services de secours catholiques dans le diocèse de Kolé, Crispin Mukadi, a affirmé à l'AFP s'être rendu dimanche à Okoto, un village situé à 7 km du lieu où l'épave a été retrouvée. Kolé, chef-lieu du territoire du même nom, est situé à 75 km d'Okoto. Les experts confirment que les débris trouvés près de Kolé, province de Sankuru, sont bien, bel et bien ceux de l'Antonov 72 opéré par la force aérienne congolaise pour la logistique présidentielle, affirme un communiqué de la présidence congolaise. Quatre corps sans vie ont été tirés des décombres et leur processus d'identification est en cours, ajoute le texte. L'Antonov avait quitté Beni, province du Nord Kivu, jeudi dernier pour Kinshasa et avait perdu tout contact avec les autorités aériennes 59 minutes après le décollage. 8 personnes étaient à bord de cet avion cargo, dont 2 citoyens russes selon l'ambassade de Russie en RDC. Conflit en Syrie maintenant. Le président américain Donald Trump a durci le ton face à la Turquie, l'appelant à mettre fin à son opération militaire en Syrie et annonçant une série de sanctions contre Ankara. Le point avec Jean-Roger Bion.
Les États-Unis veulent que la Turquie mette fin à l'invasion, mette en œuvre un cessez-le-feu immédiat et commence à négocier avec les forces kurdes en Syrie, a indiqué le vice-président américain Mike Pence, qui a précisé qu'il se rendrait prochainement en Turquie à la demande de M. Trump. Lors d'un échange téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, M. Trump s'est montré très ferme, a affirmé M. Pence, qui a assuré que le dirigeant turc s'était engagé à ce qu'il n'y ait aucune attaque contre la ville de Kobané. Lancée le 9 octobre, l'opération turque a ouvert un nouveau front dans le conflit en Syrie où interviennent acteurs régionaux et internationaux. Le chef du Pentagone, Mark Esper, a souligné que l'offensive militaire turque avait entraîné la libération de nombreux détenus dangereux du groupe djihadiste État islamique. Cette incursion inacceptable a sapé la mission internationale anti-État islamique couronnée de succès en Syrie, a-t-il déploré. Cible d'une offensive turque meurtrière et abandonnée, disent-elles, par leur allié américain, les forces kurdes se sont tournées vers les troupes de Damas qui se sont rapprochées lundi de la frontière. Les sanctions américaines signées lundi par M. Trump visent les ministres turcs de l'énergie, de la défense et de l'intérieur. Leurs éventuelles avoirs aux États-Unis sont gelées et leurs transactions internationales en dollars sont bloquées.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.